Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que Dieu a été avec vous. C'est difficile, comme Eddie l'a dit. Et parfois, Dieu est avec nous, Dieu agit, mais nous ne le savons pas. Comme Dieu est très bon, toujours bon, il peut faire des choses que nous ignorons. Mais sachons que Dieu est avec nous tous les jours et Dieu veut notre bien, comme nous l'avons étudié à l'école du sabbat. Lorsque le frère Jacques prêchait sabbat passé, il a relevé un point qui m'a conforté dans le choix du thème de la réflexion que je vous propose ce matin. Le peuple de Dieu, en grande joie, était en train de ramener en Israël l'arche de Dieu que les Philistins leur avaient pris. Cette joie était entaché par la mort de Uzza, qui avait voulu maladroitement redresser l'arche. Cet événement montre que c'est en nous laissant guider continuellement par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir sa volonté. Si nous agissons sans tenir compte de l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu souhaite de nous. Je me pose alors la question de savoir si nous nous laissons continuellement remplir par le Saint-Esprit comme Dieu nous le recommande. Est-ce que notre façon de vivre avec Dieu nous permet d'être tous les jours en contact avec le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes guidés vraiment par le Saint-Esprit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Voilà une parole très simple apparemment, mais comment la vivre? Soyons remplis de l'Esprit. Il s'agit d'un impératif passif, forme grammaticale paradoxale, puisque l'impératif laisse penser que nous devons agir et le passif implique que quelqu'un d'autre est à l'œuvre. Ces mots indiquent déjà que nous sommes responsables et actifs pour accueillir la plénitude de l'Esprit Saint, tandis que tout est grâce et que c'est la personne divine du Saint-Esprit qui verse en nous cette plénitude. Cette bénédiction est à la fois cadeau de Dieu et conquête humaine, comme bien d'autres trésors de la vie chrétienne, la joie par exemple. Nous voyons dans Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie. Et dans le verset Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous lisons aussi « Soyez toujours joyeux ». Nous connaissons aussi l'expression « être rempli de soi-même ». Ce n'est pas un compliment. Quand quelqu'un est rempli de lui-même, il y a bien peu d'écoute, bien peu d'amour. La parole qui nous est dite ce matin est en un sens celle-ci. Ne sois pas rempli de toi-même, sois rempli de l'Esprit-Saint. Pas seulement un peu au fond du cœur, pas seulement un minimum pour subsister. Être rempli de l'Esprit, nous ne pouvons le réaliser par nous-mêmes. C'est Dieu qui le réalise. Mais nous devons le désirer, accepter avec disponibilité cet état que Dieu veut nous donner. C'est un acte de foi. Je voudrais faire remarquer que cette parole d'Éphésiens 5 est dite par l'apôtre Paul, mais c'est le Seigneur qui nous parle. Et cette parole peut être comprise à la fois comme un commandement, comme une supplication et comme une promesse. Nous prenons d'abord que c'est un commandement. Il s'agit en effet d'un impératif. C'est un devoir pour un chrétien d'être continuellement rempli de l'Esprit. Pourquoi est-ce un commandement? Parce que c'est la vocation du chrétien non seulement d'être sauvé, mais aussi d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Pas seulement pour une question de confort personnel, mais aussi et surtout parce que c'est la seule manière d'être un vrai témoin de Jésus-Christ sur cette terre. Or, c'est pour cela que nous avons été appelés. Être rempli du Saint-Esprit n'est donc pas un luxe, ce n'est pas une option de la vie chrétienne. C'est un devoir élémentaire du chrétien. Dieu ne veut dans son Église que des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Pour Dieu, tout chrétien doit vivre ainsi. Il désire occuper en nous toute la place et ne peut tolérer que nous servions deux maîtres. Chaque chrétien doit briller là où il se trouve, non pas par ses prouesses, mais parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. C'est la seule manière véritable d'être enfant de Dieu. Sinon, nous allons faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu et qui peuvent être graves pour nous, comme le cas de la mort de Uzza. Cette même parole peut être entendue comme une supplication, avec beaucoup d'attente dans le cœur de Dieu, ou même de la tristesse. Pensons-nous à la tristesse de Dieu quand un homme ou une femme recherche dans la consommation de l'alcool, par exemple, l'assurance, la joie et autre chose. Pensons au presque inévitable apéritif avant le repas pour mettre de l'ambiance, créer de la joie, de la fraternité. Savons-nous qu'il n'y a pas un seul gramme d'amour dans un verre d'alcool? Combien de personnes eurent à regretter une coupe de champagne de trop? Entendons-nous le Seigneur nous inviter, nous supplier, peut-être, de trouver dans son esprit la vraie consolation, la véritable assurance, la joie pure qu'il veut nous offrir. Je fais un aveu personnel. Quand j'étais encore enfant et n'étais pas encore chrétien, je pensais que ceux qui ne consomment pas du tout d'alcool ne peuvent pas connaître la joie qu'on a au cours d'une fête. Pourquoi? Parce que quand je n'étais pas encore chrétien, nous buvions un peu d'alcool pour qu'une joie vienne à nous, pour pouvoir manifester une grande joie. Et quand je vois les gens qui ne boivent pas, je me dis, mais vous ne connaissez pas la fête. Vous regardez seulement les gens. Mais j'avoue que quand je suis devenu chrétien, je comprends qu'il y a encore plus de joie quand on ne boit pas. Parce que quand on boit, c'est une joie éphémère qui te trompe et tous les problèmes que tu chassais par l'alcool reviendront. Et de façon plus dramatique encore. Donc, la joie avec Dieu est plus forte que n'importe quelle joie cherchée ailleurs. Quand Dieu nous dit « Soyez remplis de l'Esprit », c'est aussi une promesse. Songez à une maman qui appelle pour le repas à table. C'est bien un commandement, une supplication et une promesse. Le repas est prêt. Il y aura à manger pour tout le monde. Frères et sœurs, il y a une réserve d'esprit suffisante pour que les cœurs de chacun de nous qui sommes là, ici, soient remplis et que nos cœurs débordent de joie. Et même les cœurs de tous les chrétiens du monde peuvent bénéficier de cet esprit-là sans que ça ne s'épuise. Il y a une réserve surabondante, inépuisable, que l'on peut comparer à une fontaine jaillissante. Nous lisons dans ce sens et Jean 4, verset 14, qui nous dit, Jean 4, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, Jésus est prêt à nous donner son esprit. Jésus nous parle ici de son esprit qu'il met à notre disposition. Si Dieu nous dit que c'est possible, c'est la vérité, donc, nous devons le suivre. Et même, c'est lui qui le réalise. À nous simplement de le vivre, de le désirer. Dieu veut le réaliser par nous, au-dedans de nous, au travers de nous. C'est son œuvre. C'est précisément pour cela que Jésus a accompli l'expiation sur la croix, pour que nos cœurs soient purifiés, pour qu'étant unis à la mort et à la résurrection de notre Seigneur, nous puissions accueillir en nous le Saint-Esprit de Dieu qu'il a promis à ses disciples. Nous pouvons saisir par la foi le don de Dieu sur la base même de sa parole. Le problème qui se pose surtout, c'est comment le vivre. Comprendre la volonté de Dieu suppose que nous utilisions notre intelligence, notre réflexion. Il s'agit de réflexion dans la dépendance de l'esprit et avec le profond et honnête désir de faire la volonté de Dieu. Il nous faut donc renoncer à vivre par nous-mêmes ce que Dieu offre et accomplit lui-même. Laisser Dieu le libre accès à tous les domaines de notre vie, même les plus secrets et les plus intimes. Les expressions n'attristées par l'esprit dans Éphésiens 4, verset 30, et n'éteignées par l'esprit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, nous montrent qu'au lieu de s'efforcer de persuader Dieu de nous remplir de son esprit, nous devrions plutôt veiller à ne plus contrarier l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans nos vies. Dieu nous montre un chemin, et c'est sur ce chemin-là, et pas n'importe lequel, qu'il agira. Une idée de ce chemin nous est donnée au verset 19 à 19 à 21 de Éphésiens 5, que nous avons lu déjà dans le verset de base. Le verset 19 nous dit: « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Le fait de chanter est en priorité tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Notre cœur exprime spontanément notre louange à Dieu pour tous ses bienfaits. La pratique du chant est un enrichissement pour tous ceux qui y participe. Donc, lorsque nous louons Dieu, cela contribue à garder en nous l'Esprit de Dieu. Dans les louanges, nous nous retrouvons et cela nous fait du bien. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là aussi, lorsque nous pratiquons la culture de reconnaissance, cela nous fait du bien. Nous avons de multiples raisons d'être reconnaissants, non seulement pour la santé, le vêtement, la nourriture, le travail, le logement et tant d'autres bienfaits, mais aussi pour les personones qui nous sont chères, le conjoint par exemple, les autres membres de la famille, les membres de l'Église, les membres du voisinage, etc. Donc, lorsque nous avons de la reconnaissance pour toutes ces personnes-là, notre cœur est de plus en plus animé de l'Esprit de Dieu. Au verset 21, nous lisons « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». La reconnaissance et la soumission sont spirituellement liées, car l'attitude de reconnaissance pour tout ce qui nous est donné et pour les autres, empreinte d'amour et d'humilité, nous prépare à accepter la soumission et l'autorité placée au-dessus de nous. Notons que deux de ces engagements concernent notre relation avec Dieu, chanter ou célébrer Dieu et rendre continuellement grâce. Les deux autres concernent notre relation avec les frères et sœurs chrétiens, s'encourager mutuellement, se soumettre les uns aux autres. Célébrer Dieu et lui rendre grâce, c'est le sens du culte. C'est aussi le sens de toute notre vie. Est-ce là la disposition de notre cœur? Avoir des paroles d'encouragement et se soumettre les uns aux autres, c'est-à-dire recevoir de l'autre ce que Dieu lui a donné pour nous, c'est également ce à quoi nous sommes appelés. Est-ce là la disposition de notre cœur? Deux remarques. La première, c'est que ces quatre engagements attestent que notre relation ou notre attitude avec Dieu et notre relation ou notre attitude avec les frères ne peut pas être dissociées l'une de l'autre. Tout blocage ou tout progrès dans une de ces attitudes aura sa répercussion sur l'autre. Deuxième remarque, être rempli du Saint-Esprit permet de vivre ces quatre dimensions de la vie chrétienne. Choisir avec foi ces quatre engagements favorisera la plénitude de l'Esprit, car l'Esprit ne peut pas être donné pour autre chose que ce que Dieu veut de nous. Mon frère, ma sœur, ne sois pas rempli de toi-même, sois rempli de l'Esprit Saint. Amen. Amen.